France Inter, le 18-20.
Allez, dans quelques années, hein, nos enfants nous demanderont, tu l'as connu toi, Johnny ? Bah oui, forcément, parce qu'il a traversé les générations, Johnny, parce qu'il nous a accompagnés pendant 60 ans, le même Johnny, parce que même ceux qui n'ont jamais été vraiment fans connaissent une chanson, allez, au moins une, quoi, même en cherchant un peu. Et peut-être même que depuis ce matin, vous vous dites, bah, peut-être que j'aurais dû le voir en concert, au moins une fois, pour voir à quoi ça pouvait bien ressembler, cette affaire. L'histoire avec Johnny, c'est qu'on ne peut pas passer complètement à côté, qu'on n'a pas pu passer à côté, alors allez-y. Et allons-y, ensemble, vous avez un souvenir, vous avez une anecdote, vous avez une chanson, vous avez un film, un concert à nous raconter. C'est bien ici que ça se passe. Racontez-nous votre Johnny, celui que vous aimez, celui qui vous fascine, celui qui vous agace, celui que vous écoutez encore, allez savoir, sur une cassette, celui dont vous avez tous les albums ou zéro album. Allez, soyez les bienvenus dans le Téléphone Sonne.
Fabienne Synthèse. Le Téléphone Sonne.
Et le premier, c'est vous, Louis. Bonsoir, Louis. Soyez le bienvenu.
Bonsoir. Bonsoir à tout le monde.
Et on vous écoute, Louis. Votre Johnny à vous, alors, qui c'est ?
Alors, mon Johnny à moi, je l'ai connu tout jeune, puisque, ma foi, j'ai acheté son premier disque, j'avais 10 ans. C'était un 45 tours. Enfin, c'est mes parents qui me l'ont acheté. Mmh. Et c'est des chansons qu'on n'entend plus aujourd'hui. Et c'était Jésus, Jésus-Christ à hippie, ou Mon Fils. Voilà, et ce sont des chansons qui sont restées gravées dans mon esprit. Voilà, j'ai 60 ans et j'ai continué à écouter Johnny jusqu'à maintenant, voilà.
Et ben justement, comment ça se fait que vous avez continué, à votre avis, Louis ? Qu'est-ce qui vous a laissé accrocher au bonhomme ?
Eh ben, ce qui m'a fait accrocher au bonhomme, c'est qu'en fait, il parle de la France, il parle des Français, il parle de la vie, il parle de tout le monde, il parle de sa vie à lui aussi, de ses peines, de tout.
Et ça vous émeut, on sent que vous avez une pointe d'émotion ce soir, Louis, non ? Un peu comme tout le monde, peut-être.
Comme tout le monde, parce que c'est comme Jean d'Ormesson aussi, hein. Attention, ce sont des gens qui font partie de la vie publique, qui font partie de la vie des Français. Ce sont des gens avec qui on vit, qui ne nous connaissent pas, mais nous, on les connaît.
Et on va essayer de vous remonter le moral, Louis, dans un instant, parce que puisque vous l'avez voulu, puisque c'est celle que vous préférez, on va l'écouter, Jésus, ensemble. Je voudrais d'abord vous présenter, Louis, les gens qui sont autour de la table ce soir au Téléphone Sonne, ou qu'on aura au fur et à mesure de l'émission. Bonsoir, Patrick Mahé.
Oui, bonsoir.
Vous êtes en duplex. Vous êtes en duplex de Vannes. On remercie François Ribaud, d'ailleurs, qui vous prête son bureau. Vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef de Paris Match. Bonsoir, Emmanuel Laurentin.
Bonsoir.
Vous êtes producteur, La Fabrique de l'Histoire, sur France Culture. Vous êtes l'auteur, notamment, d'un documentaire qui s'appelle Le Rock débarque en France, 1960-1963. Didier Varro nous rejoindra dans un instant. On aura Thomas Dutronc au téléphone. On aura Marc Lambron aussi. On essaiera de faire parler tout le monde de son Johnny. Je commence avec vous, Emmanuel Laurentin. C'est toujours... Il y a quelque chose de très émouvant à l'écouter, Louis, en fait.
Absolument.
Avec la larme à l'œil, et on comprend, parce qu'il y a eu vraiment ce moment d'émotion pour chacun.
Oui, parce que chacun s'est replongé dans ses propres souvenirs. Moi, je pourrais vous dire que c'était Appartenay, une ville qui est à 25 km de mon lieu de naissance, et c'était quand j'avais 14 ou 15 ans. J'ai cherché, je ne sais pas très bien...
Vous aussi, c'était un 45 tours, j'imagine ?
Non, c'était un concert de Johnny Hallyday.
Ah, c'était un concert.
Et de derrière les enceintes, des grandes enceintes Marshall, eh bien, est sorti celui qui a commencé à chanter Souvenir, Souvenir, dans une salle des fêtes. Et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Et je pense que ça fait partie, effectivement. Moi, je suis allé à 5 ou 6 concerts de Johnny depuis le début. Je ne fais pas partie des plus grands fans, ceux qui le suivent de partout. Mais c'est vrai qu'on a chacun un petit souvenir. Et je pense aussi que ça dépend de l'endroit où on est né, de l'endroit où on a grandi. Moi, j'ai grandi dans la campagne. Et c'était, pour nous, une sorte... Je vous entendais tout à l'heure avec vos invités parler de l'Amérique. C'était une Amérique qui venait jusqu'à nous en français, parce qu'on ne parlait pas encore anglais. Et c'était une façon aussi de comprendre qu'il y avait quelque chose qui scintillait de l'autre côté de l'Atlantique et de vouloir le rapprocher de soi.
Et mais vous aussi, finalement, vous dites que vous l'avez vu 5 ou 6 fois, là vous avez 10, 14 ans, vous ne l'avez jamais perdu de vue, en fait. C'est ça qui est curieux.
Bien sûr, j'ai même tenté de l'interviewer pour faire une grande série d'entretiens pour France Culture. Ça n'a pas marché et je le regrette un peu parce que je pense qu'il avait plus de choses à dire que ce que l'on pensait. Qu'il avait plus... Enfin, on ne peut pas faire une carrière comme la sienne sans avoir véritablement quelque chose à dire, et en particulier, comme le disait Louis à l'instant, à dire aux Français, parce que tout compte fait, c'est quelqu'un qui nous a apporté l'Amérique en VF, comme vous le disiez tout à l'heure, qui d'une certaine façon nous empêchait de voir la vraie Amérique, mais qui en même temps nous a aidé à comprendre qui étaient les Français et pourquoi il y avait cette relation d'amour-haine avec les États-Unis, c'est-à-dire à la fois une fascination et en même temps, on sait très bien que l'anti-américanisme a toujours été très fort dans ce pays, donc on préférait avoir un faux Américain qui nous parlait de l'Amérique qu'un véritable Américain qui viennent s'imposer chez nous.
Louis, vous êtes encore là ?
Oui, tout à fait.
Voilà, vous me parliez tout à l'heure du disque que vous vouliez que vous vouliez écouter. C'est le premier, c'est pour ça que c'est le plus important, parce que oui. C'est le premier.
Tout à fait. Oui, c'était le premier. Et puis j'étais tout jeune, je découvrais, on va dire, le monde de la musique, parce qu'à 10 ans, ben ma foi, on écoute un petit peu ce qu'il y a. Et puis là, ben c'était Johnny, on était un petit peu dans l'euphorie des yéyés à ce moment-là. Donc c'est resté gravé malgré tous les autres disques et tous les autres succès qui ont effacé.
Et vous l'avez encore, Louis, vous l'avez le 45 encore
Alors, le 45, je dois l'avoir dans un grenier bien caché, parce qu'il me reste encore des affaires de ma jeunesse, mais ça fait un petit moment que j'ai pas été chercher, voilà.
Inutile d'aller voir, Louis. Merci pour votre témoignage, merci pour votre émotion. Et du coup, Jésus, je vous l'offre.
S'il existe encore aujourd'hui, il doit vivre aux États-Unis. Il doit jouer de la guitare et coucher sur les bancs des gares. Il doit fumer de la marijuana avec un regard bleu qui plane. Jésus-Christ est un hippie. Poncho mexicain sur le dos, autour de son front un bandeau. Il est barbu et chevelu, il s'est battu à Chicago. Il aime les filles au sein nu. Il est né à San Francisco.
Allez, le petit bout de Jésus spécial pour Louis. Patrick Mahé, juste en un mot, on est dans le Johnny Labro, là. Hein. Il y en aura beaucoup des Johnny Philippe Labro, mais celui-là particulièrement.
Oui, bien sûr. Et puis on est dans une époque aussi qui est quand même l'époque des beatniks, l'époque des amours même un peu, des amours partagés. Mmh. On est dans une époque pré-68arde ou post-68arde. Et Johnny n'est plus le Johnny des tout débuts du rock'n'roll et des turbulences du rock'n'roll. Il est en train de s'adapter à un monde qui bouge et qui change. Et il l'a fait toute sa vie, toute sa carrière a été à cet exemple-là. Donc il est dans l'air du temps de ce moment-là, de cette tranche de vie.
Et il a été dans plein d'air du temps, c'est peut-être ça d'ailleurs probablement sa force par rapport à plein d'autres. Bonsoir Thomas Dutronc.
Bonsoir.
Et merci beaucoup de votre petit passage sur France Inter dans le Téléphone Sonne. Thomas Dutronc, on pose la question rituelle à tout le monde ce soir. Votre Johnny, oui. À vous, c'est qui, c'est lequel, c'est quoi votre Johnny?
Je sais pas, mais j'étais bien triste, ça c'est sûr. Je le suis encore. J'ai eu la chance de le croiser. Je suis devenu vraiment fan, moi, il y a peu de temps, finalement. J'ai toujours connu et toujours apprécié, évidemment, mais je suis devenu vraiment fan il y a peu de temps quand je l'ai vu sur scène, en fait. J'entendais dans le début d'émission. C'est vrai que je plains les gens qui n'ont pas vu sur scène, parce que c'était vraiment extraordinaire de le voir chanter en live, quoi. C'était un immense chanteur, un technicien, quoi, un musicien incroyable au niveau de sa voix, quoi. Comme chanteur, après lui, on va très très loin derrière, quoi. Il avait une manière de chanter qui était hallucinante. Un timbre, une puissance, une présence, une mise en place aussi. D'un point de vue musical, c'était un grand, grand chanteur.
Ça veut dire que vous êtes...
Il avait une générosité aussi sur scène que moi je trouvais incroyable. C'est-à-dire qu'il avait... il donnait vraiment tout au public, quoi. Et ça, j'étais vraiment scié de voir ça. On sentait un vrai amour des gens. Je sais pas comment vous dire, mais... Parce que tous les chanteurs donnent tout, disent on est content d'être avec vous ce soir, etc. Mais lui... moi, j'y croyais complètement. On sentait, voilà, qu'il aimait vraiment les gens, ce qui est assez rare finalement.
Ça se voyait physiquement. Ça se voyait physiquement dans sa manière de se tenir sur scène, dans la sueur, dans tout ça. Que à chaque concert, c'était un peu comme s'il donnait sa vie, Johnny Hallyday.
Oui, c'est ça qui était incroyable. Et je vous dis, moi, je suis devenu fan finalement sur le tard, parce que. Je sais pas, voilà, quand j'ai découvert Johnny, je me suis dit, mais on a entendu dire beaucoup de bêtises avant sur Johnny, c'était un peu on l'a beaucoup caricaturé, etc.
C'est intéressant pour votre génération, Thomas Dutronc. Ça veut dire qu'une fois que vous le découvrez, vous revenez en arrière, en fait. Vous avez été chercher d'autres albums, des précédents, à côté desquels vous étiez peut-être passé.
Oh là là, il en a fait tellement. Il y a plein de périodes qui sont intéressantes. Moi, par nature, j'ai beaucoup d'affection pour les années 60 et 70 aussi. Donc lui, effectivement, je pense qu'il y a des perles vraiment à découvrir. Et ça fait de la peine qu'il soit parti parce que c'est aussi, effectivement, c'est toutes ces années 60 dont j'ai beaucoup entendu parler, moi, dans mon enfance, et qui sont très présentes. Ben voilà, évidemment, c'est des époques qui changent. Moi, j'ai le syndrome un peu toujours du « c'était mieux avant ». Voilà, on vit entre Jean d'Ormesson et lui. On a peur, on se dit qu'est-ce qu'on va avoir à la place.
et voilà. C'est curieux, je suis étonné que vous me disiez que de cette découverte tardive finalement, parce que moi j'avais le sentiment, mais je me trompe aussi, qu'il faisait quasiment partie de la famille, puisque votre père et lui étaient amis d'enfance depuis des décennies. Donc ça veut dire qu'il faisait pas réellement partie de la famille, ou en tout cas pas comme le musicien, mais peut-être simplement comme le pote, c'est ça que ça veut dire?
J'ai essayé d'envoyer un petit texto ce matin à sa fille Laura. Pour moi, c'est la famille, alors qu'on se connaît finalement peu. Quand j'étais petit, j'ai très peu vu Johnny, j'ai dû le voir une fois ou deux. Mais pour moi, c'est une sorte de famille parce qu'ils ont, avec mes parents, ils ont eu du succès, ils ont eu une vie tellement folle en étant très très jeunes et dans les années 60, qui étaient des années en plus merveilleuses, sans chômage et avec quand même, enfin, faut chercher pour trouver des périodes sombres. Il y a bien dû avoir quelques histoires, mais enfin, c'était quand même vraiment des belles années, un âge d'or. Donc, ils ont vécu ça ensemble, ça les a vraiment rapprochés. Puis, voilà, ils ont partagé beaucoup de choses. Donc, moi, j'ai l'impression, pour moi, que c'est un petit peu la famille, effectivement, même si je le connaissais pas si bien que ça, parce que voilà, je vous dis, je l'ai vu en concert, j'avais une quinzaine d'années, mais je l'ai vraiment découvert à la première édition des Vieilles Canailles. C'est-à-dire que là, J'ai eu vraiment un choc. Je suis devenu fan, quoi. C'est-à-dire, je connaissais, mais là, je suis devenu vraiment fan de Johnny, quoi. Voilà. Et parce que, effectivement, sa manière de chanter et tout ça, en plus, j'ai eu la chance, l'honneur de le voir de près, bon, aux Vieilles Canailles, ça, c'est sûr, mais aussi, à l'occasion, pour faire une émission de télé autour de lui, je me suis retrouvé à chanter avec lui, Eddie et lui. Je remplaçais pas mon père, curieusement, je remplaçais Eddie. Enfin, c'était une espèce d'histoire. C'était un peu bizarre. Mais c'était un immense bonheur et j'ai répété avec lui et il a été tellement gentil avec moi. Il m'a dit des choses comme ça. Il était très professionnel. Ça aussi, j'ai été étonné de voir ça. C'est-à-dire qu'à quel point il aimait son travail et à quel point il était pro, quoi. Vraiment pro. Et, une classe, trois classes au-dessus de tous les de tout le monde, de tous les autres chanteurs, moi y compris, si vous voulez, voilà, c'est moi qui en croise beaucoup des chanteurs, mais voilà, c'était vraiment un grand et il était très impressionnant. Ses yeux bleus, sa gentillesse, c'était voilà.
Thomas Dutronc, vous avez participé à l'album qui est sorti là tout récemment. On a tous quelque chose de Johnny. Vous chantez Gabriel. Est-ce que c'est vous qui l'avez choisi? Est-ce que vous avez pu en faire ce que vous vouliez, ou est-ce qu'une chanson comme ça, on se dit, il faut faire attention à pas trop non plus la bouger?
Moi, j'avais choisi ça parce que, juste comme j'avais vu chanter ça en live, c'était tellement un bonheur pour tout le monde en live. Gabriel, c'était tellement un moment de messe autour de Johnny et de bonheur de vivre. La chorégraphie.
Ah, il y a de la chorégraphie, ouais.
Voilà. Donc moi, ça m'amusait de faire ça. C'est vrai que c'était un peu un défi pour moi parce que c'est pas forcément. Mais donc, j'ai essayé de faire une version. Je crois qui est pas trop mal. Mais
ah, qui est bien.
Ce genre de disque. Voilà, ce genre de disque multi-artiste, c'est un peu. C'est toujours fait un peu quand même rapidement, hein, donc voilà, c'est pas du karaoké, mais enfin. Mais on fait ce qu'on peut, quoi.
Elle est bien, la version, je vous promets. En tout cas, moi, c'est l'une de mes préférées. Vous en faites ce que vous voulez. Mais elle est vraiment bien. Il y a des trucs marrants dans cet album et on aura l'occasion d'en reparler et de l'écouter, surtout dans le téléphone sonne et un peu plus tard aussi dans la soirée. Merci mille fois, Thomas Dutronc. Merci beaucoup. Jean-Michel est là. Bonsoir, Jean-Michel. Bonsoir, Thomas.
Bonsoir à tous. Bonsoir.
Et on vous écoute, Jean-Michel.
Écoutez, moi, je vous vous appelle du Limousin. Vous avez parlé beaucoup de Johnny l'Américain. Je vais vous parler du Johnny creusois.
Allez-y.
C'est à l'époque où Johnny vivait avec Nathalie Baye. Et Nathalie Baye, donc, venait régulièrement en Creuse, à côté d'Aubusson, en Creuse, dans la maison de sa grand-mère. Et donc, pendant quelques années, voilà, ils sont venus très souvent, Johnny et Nathalie. Et c'était, on était fiers d'avoir ce couple célèbre. Voilà. Ça tombait à l'époque où mon père avait fait un disque. Mon père est accordéoniste et mon père avait fait un disque d'accordéon à 33 tours, comme on disait à l'époque.
Oui.
C'était en 86-87. Et c'était un disque autoproduit et ma grand-mère, donc, était chargée de vendre les disques à ses copines, dont Buisson et autres. Et voilà, qu'elle se promenait en ville avec son petit tas de disques, son 33 tours. Et elle tombe chez le fleuriste sur Johnny Hallyday qui faisait des courses. Et elle y est allée avec son culot habituel. Elle a dit, monsieur Hallyday, est-ce que vous aimeriez acheter un disque de mon fils? Il vient de faire un disque d'accordéon. Est-ce que... Alors Johnny, très gentiment, a regardé le disque et il a sorti un billet de 50 francs qu'il a donné à ma grand-mère. Il est parti avec son disque en 33 tours d'accordéon sous le bras. Et alors ce qui est rigolo dans cette histoire, c'est qu'en fait je pense que mon père n'a jamais acheté de disque de Johnny Hallyday alors que Johnny a acheté un disque de mon père. C'est incroyable quand même.
Et c'est formidable. Et est-ce que vous savez s'il l'a écouté, à minima ?
Ah ben ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est un personnage... Ouais, il m'est arrivé de me trouver avec Johnny Hallyday dans le supermarché d'Aubusson, au rayon pour enfants. Il a acheté un jouet, et moi, j'étais là, et j'avais 18 ans. J'ai pas du tout osé lui parler, parce que j'étais très impressionné par ce grand bonhomme qui était là. Mais bon, vous voyez, il avait des habitudes. C'était quelqu'un qui était extrêmement gentil, et voilà, qui s'est bien mêlé à la population. Comme ça, on raconte qu'un soir de match, ils habitaient donc à côté du Sarre, à côté de Vallières. Et qu'un soir de match, voilà, que la télé tombe en panne chez eux. Et en fait, Johnny voulait regarder un match, il est allé frapper chez le paysan d'à côté qui n'avait qu'une petite télé, mais il a regardé le match quand même avec le monsieur, le paysan du coin. Et le lendemain, il est allé lui a fait livrer une grande télé quand même pour qu'il puisse regarder la télé comme ça de façon plus confortable. Voilà, les anecdotes de Johnny creusois.
Merci beaucoup Jean-Michel, c'est savoureux ces petites anecdotes. Emmanuel Laurentin, ça parle d'un Johnny qu'on connaît pas en fait, enfin qu'on croit ne pas connaître parce qu'on se dit mais ces gens-là sont totalement inaccessibles, surtout lui.
On en a des dizaines d'anecdotes comme celle-ci qui sont effectivement savoureuses. Moi, un ami qui avait fait une des tournées de films avec Johnny Hallyday m'avait raconté qu'il avait fait arrêter une voiture pour pouvoir s'arrêter au bord de la route. Et tout le monde se demandait pourquoi. Et c'était simplement parce qu'il avait vu un monsieur en Harley Davidson dont la Harley était en panne et il s'était approché de lui. La personne avait eu évidemment très très peur de le voir arriver pour pouvoir l'aider à réparer la Harley Davidson. Cette gentillesse, c'est sûr que c'était quelque chose d'intéressant. Ce qui est amusant, c'est ce que vient de dire cet auditeur, parce que quand il sort Souvenir, celui qui est en tête des charts en France s'appelle André Verschuren, c'est un accordéoniste avec un titre qui s'appelle Les fiancés d'Auvergne, et c'est aussi ça Johnny Hallyday, c'est celui qui va éclipser toute une génération de musiciens d'avant, des années 50, et qui va faire au bout du compte que toutes ces gestuelles, qui sont des gestuelles extrêmement empruntées à Piaf ou à la chanson réaliste, vont disparaître au profit de cette espèce de personnage bondissant sur la scène et qui va se rouler par terre. Parce que c'est vrai ce que disait Thomas Dutronc, ce qui est très impressionnant, c'est lui sur scène. Il prend des titres qui font 3 minutes sur un 45 tours et il les transforme en morceaux de 8
sur
minutes.
Sur un 45 tours.
Il les transforme à l'époque en choses de 8 minutes, 10 minutes sur scène, parce que justement c'est une bête de scène.
Bonsoir Marius.
Bonsoir.
Et quel âge as-tu Marius?
J'ai 12 ans.
Tu as 12 ans et t'as un Johnny favori toi, un Johnny préféré? Est-ce qu'il y en a un qui te marque?
Non, en fait moi je connaissais pas trop de Johnny Hallyday, mais en fait j'ai été au bord de la mer et j'ai participé à une sardinade et en fait il y avait Johnny Hallyday qui enfin il y avait Johnny, en fait c'était un sosie de Johnny Hallyday, c'était Johnny Rock. Qui chantait.
Je me disais aussi, si t'avais vu Johnny à une sardinade, honnêtement, on te faisait revenir.
Ouais. Il y avait Johnny Rock qui était là, et puis toutes les femmes étaient folles avec leur téléphone. Avec leur téléphone et tout. Et puis moi je me demandais comment ça se faisait, alors que c'est juste un sosie. Donc c'est là que j'ai compris que Johnny Hallyday était super connu pour avoir des sosies, connu à ce point-là, quoi.
Mais du coup, est-ce que ça veut dire que t'es revenu en arrière? Est-ce que ça t'a donné envie d'écouter ce qu'il faisait réellement, le vrai Johnny?
Oui, justement, j'ai essayé d'écouter un peu. Moi, c'est pas trop mon style de musique.
Ouais, c'est vrai, c'est plutôt quoi ton style de musique?
J'aime bien le punk.
Ah oui, c'est pas pareil. C'est pas exactement pareil. Mais en tout cas, Marius, merci pour ce témoignage. J'ai effectivement, Patrick Mahé, il a raison, Marius. D'abord, effectivement, quelqu'un faisait cette remarque dans un journal précédemment. C'était dans le 18h, je crois. C'est le seul chanteur qui avait autant de sosies. Mais ça dit des choses sur ce personnage pour qu'on limite autant et pour que même la sortie d'un sosie, ça puisse créer ce genre d'hystérie, n'exagérons rien, mais en tout cas d'excitation, on va dire, dans une ville. Patrick Mahé.
Mais vous savez qu'il y a un film qui s'appelle Jean-Philippe et qui a été réalisé par un réalisateur de Vannes, d'ailleurs, de ma ville, avec les sosies, le monde des sosies. Mmh. Et par ailleurs, vous savez que Johnny doit énormément à Elvis Presley, qui était son modèle absolu depuis toujours. Et il y existe actuellement, il existe depuis longtemps, depuis 40 ans, depuis la disparition d'Elvis aux États-Unis, un syndicat des sosies officiels d'Elvis Presley. Et donc, on a un agenda, on a un catalogue, et il y a des producteurs de spectacles qui, dans certains états, certaines villes, font appel à l'Elvis Presley officiel des fan clubs qui sont répertoriés dans ce catalogue. Ben, écoute, ça veut dire beaucoup de choses.
Ça veut dire beaucoup de choses, en effet. Bonsoir Marc Lambron.
Bonsoir.
Vous êtes l'académicien qu'on connaît, bien sûr. La question est rituelle, monsieur Lambron, quel est votre Johnny ?
Ben, je dirais qu'au fond que j'en ai deux qui me touchent. Le premier Johnny, ça serait celui de l'ère de l'innocence. C'est le Johnny de 1960 avec sa chemise rayée, un peu comme les Beach Boys. C'est celui qui déjà, étrangement, chante souvenir, alors qu'il est à l'aube de sa carrière. C'est le Johnny des photos fruitées de Jean-Marie Perrier avec Sylvie Vartan. Ça, c'est le premier. Et puis l'autre Johnny, à l'autre bout de sa vie de phénix, de revenant, c'est celui que j'ai vu pour la dernière fois sur scène. C'était en juin 2017, il y a quelques mois.
Avec les canailles.
Et je garderai ce souvenir de cette bravoure extraordinaire d'un Johnny dopé comme ça, qui donnait une magnifique version du pénitencier. Et c'était un adieu, mais qui était comme une sorte de message et de résurrection. Voilà mes deux Johnny. Et puis au milieu, il y a au fond 57 ans de carrière, on peut dire, hein, de 1960 à aujourd'hui. Et donc autant de mutations, autant de morts, de résurrections, autant d'images aussi. Je suis assez grand ou vieux pour avoir vu le Johnny hippie de 1967-1968, qui n'avait pas forcément bien au teint. Le Johnny relooké, cravate, costume par Nathalie Baye, le Johnny culturiste des années 90, enfin, il y a autant d'avatars. Vous parliez de sosie, mais au fond, Johnny était lui-même une sorte de poupée gigogne de lui-même.
Mais,
incarnation, voilà. Et je crois que chacun, c'est ça qui fait le prix et sans doute l'émotion énorme qui entoure sa disparition, c'est que c'est le propre des mythologies. Ouais. Mythologie vivante, qu'on peut se les approprier, que nous avons chacun notre Johnny.
Mais ça veut dire, Marc Lambron, que l'écrivain que vous êtes trouve ce personnage malléable, on va dire. Ce serait un personnage de roman, un personnage comme celui-là ou pas?
Ah bah, c'est une vie écrite avec de la sueur, avec des cordons de guitare électrique. Et d'ailleurs, c'est une vie qui a sollicité, intrigué assez vite les romanciers, parce que Louis Aragon a écrit sur Johnny, Marguerite Duras, bien sûr Daniel Rondeau, et puis d'autres. Bien sûr, parce que on parle souvent de roman national. Eh bien, dans un roman national, il y a des trésors nationaux vivants, comme on dit, au Japon. Et je suis très frappé d'ailleurs par certaines disparitions de ces trésors cette année. 2017, c'est l'année qui aura vu la disparition de Simone Veil, de Jeanne Moreau, de Jean d'Ormesson, de Johnny Hallyday. Et c'était autant de personnages qui étaient au-dessus de nos têtes. Et quand les tuiles tombent du toit, ben, on est exposé au ciel. Et ben voilà, c'est la vie continue et c'est aussi à nous, si vous voulez, dans une époque qui est quand même souvent très acide, très critique, très très déconstructionniste, d'inventer nos légendes et puis de garder le souvenir de celles que nous avons aimées.
Marc Lambron, vous avez cité, ce sera la dernière question, vous avez cité Aragon, Duras, effectivement, on a l'impression qu'il y a eu une période où il était de bon ton de ne pas aimer Johnny, parce que tout cela était très vulgaire, et très vite, il était de bon ton de l'aimer, en fait, ce Johnny. Vous citez Aragon, les phrases qu'il cite sur Johnny, ça date de 1963, donc c'est extrêmement rapide par rapport à son début de carrière. Mais subitement, les intellectuels se sont intéressés à ce personnage-là, en fait, très vite.
Oui, mais ça, écoutez, c'est quand même difficile de vivre en parfaite surdité à son époque. Pour prendre un académicien qui n'était pas qu'académicien, Jean Cocteau, par exemple, au Bœuf sur le Toit, dans les années 20, tenait parfois la batterie de l'orchestre de jazz. Je crois que notre histoire française, et ça vaut pour presque trois générations maintenant, ça aura été de ne pas être sourd à Johnny Hallyday, et quels que soient les avatars, quelles que soient les moqueries, au fond, il est toujours passé en puissance, et finalement, il a écrit avec sa voix, avec ses spectacles, quelques-uns des chapitres de notre vie. Voilà, donc il est devenu un personnage, et désormais une sorte de fantôme regretté, mais présent d'ailleurs presque au-delà de lui-même, puisqu'on dit qu'il y a 9 chansons qui ont été enregistrées et que, comme dans une séance spirit, nous aurons peut-être en 2018.
Il y aura le disque fantôme, en effet.
Voilà.
Merci beaucoup Marc Lambron, merci mille fois de votre passage dans le téléphone sonne. Bonsoir Laurence.
Bonsoir.
On vous écoute Laurence, soyez la bienvenue.
Merci, bonsoir France Inter, bravo pour vos émissions. Je vous appelle de Marseille, moi je suis kinésithérapeute. Je travaille dans un établissement avec des patients âgés de 20 ans à 95, voire 100 ans parfois. Et ce matin, dans notre salle de rééducation, on a fait défiler du Johnny Hallyday, cet après-midi aussi d'ailleurs. Et j'ai été toute la journée surprise et émue des réactions de tous nos patients. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un patient, une patiente qui n'est pas réagi, qui n'a pas eu un souvenir à raconter, une chanson, un spectacle sur les débuts de Johnny, sur voilà. Ils avaient tous quelque chose à dire sur Johnny. Ils
et vous aussi, Laurence, peut-être, non? Du coup, vous avez pu échanger avec eux?
Oui, moi aussi. Bon, moi, je suis plus jeune que, je suis plus jeune que la grande majorité de mes patients. J'ai 46 ans. Mais moi aussi, bon, je l'ai vu en concert aussi. Donc, j'ai pu échanger aussi avec eux. Je savais que mes parents avaient vu Johnny aussi en concert à Paris, donc j'ai pu aussi leur parler de ses débuts, des années 60. Et c'était vraiment, c'était une révélation de l'impact de Johnny sur des générations de Français qui l'ont tous connu, pas forcément aimé ni adoré, mais qui ont tous connu Johnny. Personne ne pouvait rester insensible aujourd'hui à la disparition de Johnny Hallyday, je pense.
Merci beaucoup, Laurence, pour votre témoignage. Emmanuel Laurentin, c'est vrai qu'il y a des choses comme ça. On se souvient tous de ce qu'on a fait, où on était à un moment. La mort de Johnny, ça va faire partie de ça. Ça fait partie des journaux qu'on garde, par exemple, typiquement.
Les unes des grands journaux, comme les unes du Monde, que l'on garde parfois chez soi. Mais c'est parce qu'aussi, c'était ce que disait Marc Lambron, il avait emprunté tellement de figures, au bout du compte, qu'on pouvait garder le Johnny Mad Max des années 80, ou garder le Johnny en cravate et en costume très classe des années, de la fin des années 80, début des années 90. Et chacun d'entre nous a avec ce personnage, quelque chose à dire de son propre pays et des États-Unis, parce que c'est toujours dans cet aller-retour que ça s'est construit. Évidemment, la France a un rapport aux États-Unis très complexe, en particulier avec l'anti-américanisme qui a été très fort dans notre pays. Et donc, Johnny Hallyday, il était là pour nous aider à comprendre cette Amérique dont vous parliez tout à l'heure dans votre émission précédente, à la comprendre, mais une Amérique mythifiée qui était celle, en fait, de la VO. Ou de la VF, c'était plutôt la VF, Johnny, et il y avait ceux qui pouvaient écouter des chansons en anglais, voir des films en VO, et puis ceux qui ne pouvaient pas ou qui n'avaient pas cette possibilité-là parce qu'ils étaient trop éloignés des endroits où ça se passait.
Allez, en VF, c'est Pascal qui nous appelle. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
C'est compliqué pour vous aujourd'hui, Pascal, cette journée. Vous êtes un vrai, vrai grand fan. Il paraît que votre garage s'appelle Chez Johnny.
Oui, c'est ça. De toute façon, oui, ça a toujours été... appelé Chez Johnny parce que les gens connaissent même pas mon vrai prénom souvent. Et effectivement, on m'appelle Chez Johnny parce que je ne veux pas dire le mot fan, comme j'ai entendu Thomas et tout, parce que je préfère dire admirateur que fan. J'ai jamais voulu le mot fan pour le mot fanatique, c'est un mot qui me fait peur. Et effectivement, j'ai eu une chance incroyable, mais qui m'a coûté un peu cher. C'est qu'à une certaine époque, il y a des disques d'or qui se vendaient aux enchères sur une chaîne de radio. Et avec un salaire de 4000 francs à l'école, à l'époque, en 84, je me suis offert un disque à 60 000 francs. Quoi.
Oula, vous le payez encore ? Est-ce que vous le payez encore, Pascal ?
Non, je l'ai quand même payé sur 5 ans. D'accord. Et il a fallu 3 heures pour que je trouve les sous avec les banques. Ça n'a pas été facile à l'époque. Et l'autre chance que j'ai
vous imagine téléphoner à la banque, Pascal, en disant « Voilà, je voudrais m'acheter un disque d'or de Johnny, est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent ?» Ça devait être une histoire, quand même.
C'est un peu ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'y suis allé les voir, j'ai dit « Voilà, il me faut un crédit. » Oui, ben il faut nous amener une facture, ils pensaient que c'était pour une voiture. Sinon, c'est pour acheter un disque, hein. Oui, bon, entre-temps, les médias m'appelaient un peu de partout, parce que ils ont vu qu'il y avait un fou sur Terre, c'était moi. Et après, à condition d'avoir la photo du chèque sur un journal, etc., ils m'ont quand même prêté l'argent sur 5 ans. Et en plus, j'ai eu la chance, j'ai entendu parler tout à l'heure d'Aubusson et tout,
ouais.
J'ai eu la chance, grâce à la radio qui faisait ses ventes de disques d'or, qui m'appelle en me disant, bon ben voilà, Johnny est en vacances dans la Creuse avec Nathalie Baye, et on fait une émission en direct samedi prochain, et si vous pouvez être libre, Johnny vous remettra le disque d'or en live. Eh, bah j'ai dit, de toute façon, il peut se passer n'importe quoi. Oui, bien sûr, j'y serai. Et donc, de main à la main, et puis manger au restaurant et une émission de radio avec mon idole, ça a été le plus beau jour de ma vie pour l'instant. Et j'ai vu un homme vraiment simple, gentil et tout, et qui m'avait trouvé aussi simple, etc.
Ouais.
Et à la fin, il m'a dit, toi, t'es les mecs comme j'aime. J'étais franc. J'ai dit, il y a des paroles, il n'y avait pas de karaoké, je ne comprends pas tes paroles. C'était dans mon petit loup. Quand il dit, un médiator, un peigne et beaucoup d'espoir. Je ne comprenais pas les paroles à l'époque. Et il m'a dit, toi, j'aime bien les mecs comme toi. Mon prochain disque d'or, si un jour j'ai un autre, je te l'offre.
Et il vous l'a offert?
Après, un an après, j'ai reçu Gang, écrit par Goldman, avec la dédicace en plus à Pascal Tournier avec mes amitiés, novembre 85, génialité.
Bah écoutez.
Et puis voilà, c'était. Et Johnny, voilà, avec tout ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est vrai que c'est un homme très timide. Il est un peu comme moi, sauf qu'on a vu un canon. Au moins, on a un peu plus de tchatch. Et voilà, moi, quand il chantait à Paris, j'ai jamais voulu aller le voir devant sa maison, etc. Quand il avait le Balzac, effectivement, à chaque fin de concert, j'allais le voir à son resto. Il me reconnaissait, avec Laetitia on discutait, à chaque coup, t'as besoin de dédicace, j'ai eu, c'est pour une amie, etc. Il m'a toujours fait les dédicaces que je voulais.
Pascal.
Il y a toujours des gens dans les fans ou dans d'autres qui vont critiquer sa femme, mais heureusement qu'elle a été là dans les bonnes années, elle nous l'a sauvée et... avec 10 ans d'écart. Quoi.
Merci beaucoup, Pascal. Elles sont savoureuses, vos anecdotes. Merci beaucoup. On vous sent bien que vous avez beaucoup d'émotions, mais vous n'êtes pas le seul. Tous les gens qui nous appellent au téléphone sonnent cette émotion-là. Et c'est pas fini. Bonsoir, Didier Varro.
Bonsoir, Fabienne.
C'est parti pour la soirée, la suite de la soirée.
La suite de la soirée sur France Inter, avec beaucoup d'invités, de témoignages. Camille, Bertrand Burgala, Mio Sec. Et puis, si tout va bien, chère Fabienne, aux alentours de 21h, c'est Bono du groupe U2 qui viendra témoigner de son amour et de son admiration pour Johnny Hallyday avec notre camarade de jeu, notre collègue de bureau Mishka Assayas. Et tout ça, c'est jusqu'à minuit. Un concert aussi exclusif enregistré au Francofolie en 1991 avec Jean-Louis Foulquier.
Allez, c'est dans à peine deux petites trois minutes, même pas. À tout à l'heure. Merci Didier.